tuk, tuk, tuk. Et deux mesures piano, comme écho. Encore une fois.
Enfin, ça rend fou un peu la quantité. C'est impressionnant. Hein. On a envie de dire qu'on pourrait arrêter en fait toute production musicale. En fait, il y a assez, quoi. Il y a assez de disques, non ?
Tout arrêter puisqu'il suffirait d'écouter vous passer par Continent Musique et puisqu'il est beaucoup question de cinéma en ce moment, nous vous proposons de réécouter le réalisateur et musicien Quentin Dupieux. Son prochain film Au Poste sortira le 4 juillet prochain. À l'occasion d'un passage à Paris, nous lui avions proposé de visiter les archives de la discothèque de Radio France. Alors comme de l'œuf ou de la poule, on ne sait plus si c'est la musique qui engendre les images de Quentin Dupieux ou l'inverse. Je vous renvoie à ses films et à leurs bandes originales, celles de Steak, Rubber ou encore Réalité. Émission grand écran sonore où il sera question aussi bien de Pierre-Henri, de Massacre à la tronçonneuse ou de Philippe Glass quand il produisait du rock. Il faut être vraiment un but de soi-même pour parler de sa propre musique, disait récemment Quentin Dupieux. On a demandé à cet oiseau singulier de parler de la musique qu'il écoute et de celle qu'il fait. Alors, Quentin Dupieux, Monsieur Oiseau, votre disque Alouette va rejoindre cette collection.
Ah bon ?
Maintenant ? Bah oui.
Ah ouais, ça se passe comme ça ?
Oui, c'est comme le final des Aventuriers de l'Arche perdue. Vous allez rejoindre la grande collection dans ces grands hangars de la collection de Radio France. Et il y a des travées, alors vous allez voir, vous pouvez faire...
Mais donc, vous mettez tout, absolument tout.
Là, il y a tout, oui. En tout cas pour la collection vinyle, parce qu'on a cessé d'en acquérir pendant les années fin 80, début 90, où on est passé au CD. Mais la partie dans laquelle vous êtes là, c'est classé par vinyle. C'est pour ça que vous avez par exemple Sarava, là, je vois le label français.
Ouais, d'accord. Putain la vache.
Vous êtes collectionneur vous-même ?
Je l'ai été. Ça va et ça vient en fait. En fait, je me suis débarrassé. Quand j'habitais encore à Paris, j'avais beaucoup de vinyle. Et je pouvais pas les emmener aux États-Unis. C'était trop lourd, en fait. C'est une sorte de, voilà. Donc, j'ai fait une sélection. J'ai gardé 5% de mes disques et j'ai tout donné à des copains. Parce que c'est des objets encombrants, quoi. Mais je continue à en acheter, principalement pour inspiration, trouver des sons. Donc je vais dans ce truc qui s'appelle Amoeba Music à Los Angeles. Où il y a, voilà, bon, il y a pas autant de disques qu'ici, mais presque. Enfin, c'est un truc, c'est infini. Il y a tous les genres, tous les trucs, des disques à $1 jusqu'au truc super rare à $300, quoi. Mais je peux pas dire que je suis collectionneur, parce que je les achète, je les mets dans un coin, je suis pas méticuleux, j'ai pas de culte du vinyle. Voilà. Même si j'aime ça, en fait. Voilà, je trouve ça. Je marche toujours, mais par exemple là mon dernier disque, j'ai même pas eu l'occasion de l'écouter sur une platine encore. Je l'ai eu, je l'ai touché, mais je l'ai pas mis sur une platine. Voilà.
Comment il a été fabriqué ce dernier album ?
Fabriqué, c'est-à-dire c'est le matériel utilisé.
Ouais, la composition.
C'est triste à raconter. Maintenant on fait ça sur ordinateur. Hein. Je me suis plié à la facilité parce que c'est pratique à transporter. On peut faire de la musique d'un seul coup n'importe où en fait. On a tous nos outils à portée de main. Vu que maintenant les outils sont hyper bons et riches et rapides, etc., sur un ordinateur portable, ce serait con de se priver. Enfin voilà, moi j'ai eu une phase où j'étais complètement dingue du vieux matériel qui coûte très cher. Et puis ça m'est passé un peu aussi comme une maladie, quoi.
Oui, je me souviens, vous aviez annoncé sur Internet que vous donniez votre TR-808, par
exemple. Voilà, c'est ça. Mais c'est la même période où j'ai donné mes vinyles à des copains. Et j'avais tout ce matos chez moi qui était devenu du matos triste, en fait. Des boîtes à rythme que j'ai adoré, que j'ai payé quand même. C'est des trucs qui coûtaient un bras à l'époque. Enfin, encore maintenant, d'ailleurs. C'est des trucs de collectionneur, vraiment. Mais pour les maintenir en état de marche, etc., c'est du matériel qui coûtait cher. Et quand je me suis rendu compte qu'en fait, tout était... en train de prendre la poussière chez moi et que moi je passais mon temps à faire de la musique sur un ordinateur et que ces machines ne servaient plus à rien, je trouvais ça triste en fait. Donc je me suis dit, c'est plus marrant de trouver des jeunes musiciens qui en ont besoin tout de suite en fait, voilà. Et effectivement, je les ai trouvés assez vite. Hein. J'ai mis une annonce sur Twitter, c'est parti assez vite. Mais ça m'a permis de rencontrer un copain d'ailleurs, c'est ça qui est drôle. Tahiti Boy, le fameux Tahiti Boy David.
Ah, David Stanke.
Voilà, qui lui a été celui à qui j'ai donné la TR-808, la boîte à rythme la plus intéressante de mon lot, quoi.
C'est avec celle-là que vous aviez fait, par exemple, Analog Worms Attack, votre premier album ?
Non, j'ai pas fait grand-chose avec cette boîte à rythme. Je dois avouer, je m'en suis servi. Qu'est-ce que j'ai fait avec ? J'ai dû enregistrer quelques sons. Non, j'ai pas concrètement fait un vrai morceau avec cette boîte à rythme. Et donc voilà, je pense que David, il s'en est servi. Et puis ça, du coup, on s'est rencontrés. J'ai bien senti le mec et il a fait la BO d'un film avec moi juste après.
Oui, c'était pour Wrong.
Voilà.
Est-ce que le fait de changer d'outil, ça, vous apercevez que vous faites pas tout à fait la même musique, Quentin Dupieux ?
Moi, j'ai envie de dire que les outils, c'est que les outils, mais forcément que ça doit jouer. Mais moi, de mon point de vue. Mon regard à moi perso sur ce que je fais, je considère que l'outil c'est qu'un outil et on s'en fout complètement en fait. Après on peut être fétichiste des synthétiseurs, fétichiste ouais. Tout un tas de trucs, c'est super, je l'ai été, mais quand ça passe et du coup après c'est un outil, c'est un outil, donc moi plus qu'un outil c'est un outil, je préfère un outil peu encombrant en fait.
Allez coucou.
La platine vinyle qui est un peu plus loin, on a mis de côté une partie des choses que vous nous avez demandé et on peut donc faire tourner la travée et vous avez je sais pas quelques milliers de disques qui tournent au milieu de là.
Ouais, c'est incroyable.
Mais encore une fois, vraiment vous pouvez avoir
est-ce qu'il y a des gens qui sont morts dans cette ici? Non.
Et il y a beaucoup de morts dans les disques. Personne n'a été écrasé.
Un arrêt cardiaque là. Non, jamais. Okay.
Mais ça ferait un bon lieu de tournage.
Ouais. Après, c'est compliqué à filmer parce que c'est beaucoup de détails.
Mais un archiviste obsessionnel, par exemple, ça peut être un personnage intéressant.
Ouais, complètement. Ouais. En tout cas, c'est vrai que c'est un lieu qui peut faire penser à la folie. Parce qu'en fait, même un mec qui a envie de s'intéresser à ne serait-ce qu'à une armoire peut devenir fou en fait, juste à vouloir tout connaître et à chercher un truc, enfin ça rend fou un peu la quantité, c'est impressionnant, hein. On a envie de dire qu'on pourrait arrêter en fait toute production musicale en fait, il y a assez de disques, non?
Alors regardez où on arrive, monsieur Oiseau. Je vous ai appelé Quentin Dupieux.
Ouais.
Illustration sonore.
Bah voilà, regarde, paf, les moineaux.
Ah bah. Qu'est-ce qui vous a donné ce nom d'oiseau d'ailleurs?
C'est un copain, c'est ce cher Kavinsky, le zombie. Ouais, c'était un surnom en fait. C'est quoi ces boîtes là?
Ça, c'est des coffrets avec, je pense, que des 45 tours dedans.
Ah ouais, je peux ouvrir?
Allez-y. Ouais.
Ah oui, d'accord. Non, c'est des. C'est quoi ça? C'est des.
Bah, en fait, c'est ce qu'on appelait un album. À l'origine, c'est ça, un album, en fait. C'est comme un livre. Donc, vous avez des chapitres et puis vous avez les disques qui sont contenus dedans.
Putain, c'est beau. Hein.
Alors là, c'est pas mal qu'on tombe sur ce coin des illustrations sonores et des bruitages parce que ça fait partie des choses que vous nous avez demandé quand vous nous avez dit que vous alliez venir.
Ouais. Alors, j'espère que vous avez compris de quoi il s'agissait. Parce que c'est les. Oui, c'est ça. On est exactement au. Ouais, c'est ça. On parle de la même chose, ouais. C'est des puits d'inspiration, ça. J'en ai acheté vraiment des tonnes, mais des tonnes. Parce que c'est complètement mystérieux, en fait. Il n'y a pas d'artiste. C'est des trucs un peu vagues. Donc souvent, c'était de la merde. Et puis parfois, il y avait une piste incroyable, hyper inspirée. Et en fait, il y avait des vrais artistes derrière qui faisaient ça, j'imagine, un peu rapidement. Mais non, c'est passionnant. Enfin, moi, je chopais surtout les trucs électroniques. parce que c'est ça qui m'intéressait. Puis des fois, je tombais sur des trucs, des espèces de banques de films avec des... Par exemple, je sais pas, je me rappelle d'un qui était génial, que j'ai beaucoup samplé. Je vais pas m'attirer d'ennui non plus, mais... mais enfin, non, mais c'était un truc qui s'appelait genre film d'horreur. Je sais plus exactement le titre exact, mais c'était... des sons, des espèces de fausses musiques, des bruits, des sound effects de films d'horreur.
Ah, qui étaient censés faire peur. Hein.
Qui étaient censés faire peur, c'était genre, je l'imagine, c'était si on faisait un truc un peu horrible, on prenait ce disque et on se servait de... Et c'est génial, c'est des disques géniaux, moi je trouve.
Alors par exemple...
Around the World, là, il y a tout Daft Punk, là, regarde.
Oui, alors ça c'est très... C'est intéressant cette collection qui s'appelle Around the World.
Ouais. Ouais, non, mais ça, c'est complètement les trucs que j'achetais Japan, donc ambiance Japon.
Après l'orchestra. Et alors, attendez.
C'est dingue.
Il y a une collection qui est souvent recherchée dans ce registre-là, c'est celle-ci. C'est le label pour lequel Janko Nilovic avait fait pas mal de choses. Des musiques d'illustration, un peu funky.
Ouais, ça j'en ai. J'en ai des comme ça. C'est voilà. Quoi là, comment ça s'appelle?
Montparnasse 2000.
C'est ça, ouais, je reconnais. Ouais. Ça, génial, les trucs de batterie et de. Comment ça s'appelait ces trucs percussifs, percussions. C'est infini ces trucs-là, c'est vraiment.
Il y en a un par exemple qui a été fait par Bernard Lubin, on lui est passé quand il était jeune.
Je sais pas qui c'est, pardon.
C'est un musicien de jazz.
Ah d'accord.
Et qui, pour. Voilà, comme beaucoup de musiciens de studio, pour gagner sa vie, à un moment, a fait des musiques d'illustration. Voilà, qu'il faisait rapidement en studio, très
ouais,
vite.
Ouais. Mais il y a des trucs incroyables. Hein.
Mais où il y avait quand même de l'inventivité, en fait.
Bah évidemment, parce que c'était, j'imagine que les mecs étaient libres, en fait. Donc c'était une sorte de récréation hyper, voilà, hyper libre.
Est-ce que, ah oui, il y a ce nom-là, là, j'étais sûr que... Qui vous plairait?
Bruton. C'est bien, c'est bon.
Bruton Musique. c'est un label anglais.
Ça pourrait être moi, ouais.
Je crois que là, on doit avoir, je sais pas si j'en crois l'illustration, des sons d'abeilles, de chênes. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez qu'on prenne dans le...
Mais là, il y a tellement de trucs, c'est, je veux dire... Donc là, c'est plutôt des sons, c'est des sons enregistrés, là. C'est plus... c'était ce que tu faisais avant, ça. des oiseaux, des bruits d'avion,
Mais il y a aussi des choses fabriquées, hein. Notamment pour cette collection-là.
Bah, le truc de percussion, là, attends, moi j'adore ça. Ça se trouve, c'est nul, mais. Donc, pas ça. Là, ça va, batterie percussion.
Ok, c'est pour celui-là. Alors, ça, c'est télémusique.
Et ça, tu vois, t'en as trois exemplaires. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de disques aussi.
Voilà.
C'est qu'il y a tout en.
Il y a un exemplaire qui était fait pour le prêt, un autre pour les archives, etc. Là, je vois batterie, tambour, percussion.
Ouais.
Et il y a une plage là qu'on a envie d'écouter tout de suite.
Angoissante minute, bah, c'est vrai. Formidable.
Alors, par contre, pour la retrouver. 4.
Ouais, ça c'était un enfer. Il y en a, là encore c'est lisible, hein, mais il y a des disques comme ça où il y a 50 index.
De disques qui dysfonctionnent ou de musique qui fonctionne pas.
Ouais, j'adore. Ouais, j'adore. Il y avait un truc, j'arrivais pas à me rappeler. Le mec créait des boucles en faisant. Juste physiquement, avec du scotch.
Il faisait déjouer le saphir. Quoi.
Voilà. Et c'était incroyable. Le mec avait fait un truc. Donc, il y avait plusieurs platines en même temps qui s'additionnaient, un peu comme Pierre-Henri, on va dire, qui lui faisait ça avec des bandes. Enfin là, c'était un truc un peu aléatoire où le mec superposait plusieurs boucles. Faites sur en live sur des vinyles. C'était incroyable.
Alors justement, Pierre-Henri, ça fait partie des choses que vous nous avez demandé pour la recherche. Il y a beaucoup de choses, Pierre-Henri, des musiques de films, et Pat Prilly. Alors, explication sur qui est Pat Prilly. C'est un pseudonyme. Et pourquoi Pat Prilly?
Ben parce que, justement, un de ces disques... Moi, j'ai un de ces disques... alors, j'ai pas le nom en tête, mais c'est un disque que j'adore vraiment, par-dessus tout, qui est, à mon avis, qui est un truc d'illustration sonore, signé Pat Prilly, qui est... donc, c'est Jean-Jacques Perret. Voilà. Mais qui est incroyable, qui est genre, qui est mieux que le, qui est mieux que Jean-Jacques Perret en fait, qui est un espèce de disque avec des sons de Moog incroyables. Voilà, j'ai pas le titre en tête. Vous en avez trouvé ici? Du Pat Prilly?
Non, du Pat Prilly, non.
Ah bah voilà.
On a, on a deux Jean-Jacques.
Qu'est-ce que c'est que ces archives à la con là? Il y a pas de Pat Prilly.
Alors, on a deux Jean-Jacques Perret là. Je les ai pas tous torsés.
Ouais. Non mais c'est sûr. Alors voilà, non mais donc c'est vraiment rare Pat Prilly en fait. Si vous, si même ici il y en a pas.
Oui.
D'accord.
Je vous le confirme.
Mais alors, ouais.
J'aime beaucoup le titre de celui-là, Les Rois du Moog.
Les Rois du Moog, ouais. C'est drôle. Ça, je connais pas.
Monsieur Oiseau.
La pop musique électronique du futur, créée par Jean-Jacques Perret. Non, pardon. Oui, par Perret Kingsley. La pop musique électronique du futur. Mais c'est génial, ça.
La dernière fois que vous êtes venu sur France Culture, c'était pour parler de Wrong Cops. Mais vous aviez parlé un peu de musique et vous disiez qu'il n'y avait plus beaucoup de choses qui vous intéressaient dans la musique d'aujourd'hui parce que vous trouviez la musique trop sérieuse.
Oui, j'ai pu dire ça. Après, c'est... Enfin, non, mais ce qui est... Enfin, de manière globale, ça ne m'intéresse plus. Je ne suis plus du tout obsédé par la musique comme j'ai pu l'être quand j'étais plus jeune. Mais je pense que ça, c'est un truc normal. Je me vois quand j'avais entre 20 et... Enfin, même plutôt entre 17 et 25 ans, c'était quasiment l'obsession continue de ma vie. C'était d'écouter de la musique, de trouver un truc. Si j'aime un artiste, c'était de tout écouter. Enfin, voilà, j'ai plus du tout cette patience ni même cette curiosité. Voilà, mais c'est sûrement parce que j'ai écouté beaucoup de musique. Beaucoup, beaucoup.
Vous écoutez quoi en ce moment ?
Alors, ben, j'écoute pas de musique.
Ah, vraiment,
j'écoute la radio, même s'il y a de la merde, j'écoute, enfin, ça, ouais, non, j'ai pas de moment musique où je m'écoute un truc que j'aime. Non. Moi, je pense que c'est l'âge. j'ai pas 60 ans non plus, mais je pense que. Je sais pas. J'ai tellement été obsessionnel, je pense que. Il fallait que ça cesse, peut-être. Je sais pas.
Vous savez à quel moment ça a cessé un petit peu ou pas?
Certainement quand j'ai commencé à vraiment en faire de manière intense. J'ai envie de dire que c'est que l'âge. Je vais pas le retrouver, mais. Ça, vraiment, j'étais très jaloux d'un copain qu'il avait. Ah. Parce que je suis vraiment dingue de Pierre-Henri, moi. Et je n'ai jamais retrouvé ce disque. Lui, il l'avait, donc il était très fier. Moi, j'avais l'Apocalypse de Jean, vous l'avez, ça, ici?
Oui.
Voilà.
Dans une très belle collection.
C'est ça, ouais. Là, je l'ai, ouais. C'est celui-là. Enfin, ah. Cette collection-là. Là.
Ouais, c'est la collection Prospective 21e siècle.
Ça, c'est incroyable, ça.
Voilà, alors, celui-ci aussi est très beau. Le voyage d'après le livre des morts tibétains.
Ouais. Ça, c'est magnifique. De A à Z, c'est le truc qui est complètement dingue. Et bon, ça c'est complètement autre chose, mais c'est plus période psyché.
Musique pour une fête.
Ouais. On le met?
Ah bah oui.
Je crois qu'il y a un morceau qui était complètement. Un truc batterie, un espèce de solo de batterie avec du synthé. quand même. C'est génial. Ça, ouais, je me rappelle que j'écoutais ça, j'avais vraiment envie de le faire, quoi.
Vous avez vu ce qui est écrit au verso, c'est génial.
Je veux qu'il se passe quelque chose entre moi, mes appareils et les gens. Ouais, il a dit ça à Montréal en 72.
Mais surtout, la musique qu'on entend...
C'est un concert à la fête de l'UMA, en 71. Concert spontané, donc c'est une impro, en fait, ils font n'importe quoi. Et non, mais c'est incroyable.
Il dansait plus tard, le 16 août, par Maurice Béjart et le ballet du XXe siècle. Vous êtes déjà allé chez Pierre-Henri, parce qu'il fait des concerts au milieu de ses machines,
des bandes. J'ai failli, mais après il y a toujours ce truc, quand on adore quelqu'un, quand on est vraiment fasciné par le boulot, j'aime bien l'idée de jamais en fait confronter dans le réel, en fait. C'est toujours décevant. Mais moi ça m'a toujours déçu les concerts, j'ai jamais aimé les concerts, à chaque fois que j'allais voir un groupe que j'adorais, j'aimais pas d'un seul coup le voir en vrai dans le réel. Voilà.
Donc pas de bons souvenirs de concert, ou alors
aucun, mais aucun, mais jamais. Ça m'a toujours complètement emmerdé. Et ouais, je suis pas un mec de concert. Et même non, j'aurais adoré. On m'en a parlé. Même je crois que Éric Morand de F Communication à l'époque, je crois qu'il avait pris des tickets, il voulait me faire plaisir, machin. Mais puis en plus il y avait le truc surtout de voir un vieux monsieur quand même. C'est-à-dire que moi ce que j'adore c'est comment dire, c'est ce qu'il faisait quand j'étais pas né. C'est toujours chiant de demander, enfin, d'aimer un mec pour ce qu'il faisait il y a 30 ans. C'est comme moi déjà, je commence à avoir cet effet-là. Les mecs qui me réclament mon premier disque en me disant c'était ça qui était super, et ce que tu fais maintenant c'est moins bien. On n'a pas envie d'entendre ça. Enfin, c'est chiant. voilà. Donc j'imagine Pierre-Henri doit faire autre chose maintenant. Il est passé à autre chose.
Et qu'est-ce que vous pensez des gens qui viennent vous voir? Alors vous allez jouer ce soir par exemple?
Ouais.
Ah, je vous ai vu.
Je pense beaucoup de bien des gens qui viennent me voir. C'est des gens formidables.
Comment vous faites quand vous êtes... moi, je vous avais vu, par exemple, à Rock en Seine. C'était une sorte de duo avec Boys Noize.
Ouais.
Et on a l'impression qu'il y a une ludique immédiate, c'est-à-dire que vous passez chacun à peine 30 secondes d'un disque et tout de suite, l'autre passe autre chose.
Bah, c'est parce qu'en fait, ça, c'est très simple. C'est qu'on est habitué à faire ça tout seul, déjà, chacun de son côté. Donc, on a une mécanique rodée, chacun... séparément seul et d'un seul coup à deux, comment dire, pour que ce soit satisfaisant il faut multiplier cette mécanique par deux en fait, sinon on va se retrouver à jouer 10 morceaux chacun à peine, enfin j'exagère, mais je pense que c'est ça qui a créé l'espèce de, effectivement moi quand je joue tout seul je vais pas aussi vite, ouais. Mais là c'est parce qu'on avait 55 minutes pour faire le show. Et je pense que c'est ça, c'est qu'on avait tous les deux envie de tellement en mettre qu'on a été vite, quoi. Si on est juste là tous les deux à mettre chacun un morceau et à attendre que le morceau se termine, c'est d'un seul coup c'est un peu, puis on a l'impression de voler les gens, quoi. Il y a un truc, il faut bosser un peu, quoi.
Ah ben on continue à bosser. Alors. dans la sélection, qu'est-ce que vous nous avez demandé d'autre? Alors là il y a, bah, je vous laisse.
Bah ouais, ça Devo, super. Tomita, il est mort récemment, Tomita.
En mai 2016, ouais. Isao Tomita.
Ouais.
Lui, il s'est fait connaître beaucoup, et je ne sais pas si c'est ça qui vous intéresse dans ce qu'il fait, c'était des adaptations de Debussy, de Stravinsky, avec des synthétiseurs.
Complètement, mais poussé, le mec devait être un maniaque de la fabrication des sons, parce qu'en fait, il y a certains disques, on a du mal à imaginer que c'est du Moog. Il recrée les sons, par exemple les cymbales, tous les sons d'un orchestre, avec son Moog. Il y a des disques, c'est complètement... c'est incroyable. Enfin, le mec devait passer des heures à fabriquer ses sons. Oui, il y a un truc fascinant, en fait, de ces mecs qui ont vraiment, en fait, utilisé ces outils. Parce que c'est un Moog modulaire. C'est un outil incroyable. C'est un truc... nous, on fait poète-poète avec les synthés aujourd'hui. Mais ces mecs-là, ils pouvaient, en faisant des routings de câbles, etc., ils pouvaient recréer n'importe quel son, en fait. Tout.
Qu'est-ce qu'on choisit? On en passe un extrait de Tomita?
On peut passer un extrait de Tomita, mais alors ça, pour le coup, là, je...
Ah, vous les avez presque tous, hein, vous allez voir.
Spacewalk. C'est peut-être pas un truc de classique, ça. Mais je le verrai, parce que je le connais pas, donc ça m'intéresse. Impression d'un astronaute. Ah non, c'est Star Wars. On voit que c'est intéressant.
Avec des illustrations qui montrent un peu comment on imaginait le futur dans les années 70-80.
Ouais.
Ouais, c'est hyper sympa. Enfin, c'est moins chiant que la vraie musique de John Williams, si je... pareil, si je peux me permettre. Non, mais on l'a tellement entendu, le truc est tellement pompeux. Là, c'est une version. C'est une lecture un peu rigolote, quoi. On a écouté très brièvement Pierre-Henri, est-ce qu'on se mettrait pas un bout de... Parce que ça, c'est vraiment...
L'Apocalypse de Jean.
Bah, c'est un de mes disques préférés, donc je... si on est là pour...
Allez, bien sûr. Est-ce que vous aviez dit aussi, faut quand même être très imbu de soi-même pour parler de sa propre musique.
Bah, c'est difficile, surtout. Pour dire moi, je, patati, patata, ouais, c'est... Pas surtout dans mon cas.
Je vis alors l'agneau rompre le premier des sept sceaux. Et j'entendis le premier des animaux dire comme à voix de tonnerre, « Viens !» Lorsqu'il rompit le second sceau, j'entendis le second des animaux disant, « Viens !»
C'est un truc que je mettais, c'était mon intro. Pendant des années, je jouais ça dans les clubs, ça n'avait aucun sens.
Ouais. Lorsqu'il rompit le troisième sceau, j'entendis le troisième des animaux disant « Viens !» Lorsqu'il rompit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième des animaux disant « Viens !»
Non mais j'encourage quiconque à écouter ce disque en entier, les trois volumes. Faut avoir le temps, hein, mais...
Du coup, je pense à votre morceau « Vous êtes des animaux ». Et oui, il n'y a à peu près aucun rapport. Mais je pense à l'animal parce que, en plus de flat beat, c'est petit animal à la fourrure jaune, on voit aussi dans vos films, notamment je pense à Réalité, la présence des animaux est assez importante en fait, puisqu'il s'agit par exemple de trafic de drogue dans des rats morts.
Ouais.
Et puis il y a un secret qui est contenu dans les entrailles d'un sanglier qu'on vide. Il y a une cassette qui sort des entrailles de ce cendrier. Il y a une petite fille qui est très impressionnée par la vision de cet animal qu'on vide.
France Culture.
Continent Musique.
Mathieu Conquet.
Vous faites un lien entre l'animal et la musique.
C'est compliqué comme question. Enfin, oui. Enfin, ce que je connais des chiens, j'ai toujours été observateur des chiens. Je trouve ça passionnant à regarder, en fait, un chien, beaucoup plus qu'un être humain. À regarder, simplement à observer, il y a un plaisir basique à regarder un chien être un chien, en fait. Voilà. Mais à part ça, le côté entrailles et tout ça, moi, c'est beaucoup plus. C'est des fantasmes de cinéma. Je pense que c'est. Le sanglier, dans la réalité, c'est pas un animal. Enfin, c'est. C'est ce que ça évoque, c'est les entrailles. Enfin, mais c'est pas vraiment le sujet, c'est pas l'animal. Même il y a des animaux empaillés chez le personnage en question. Je pense pas être en train de parler des animaux. Et avec ma musique, il y a ce truc des entrailles. Mais après, ça devient un peu. C'était ça le sujet de Long Cop. C'était enfin, en tout cas du court métrage Long Cop, ce qui a initié le film, c'était ce flic qui essayait d'expliquer à Marilyn Manson d'où venait la vraie musique. Quoi, comment on devait ressentir la musique. C'était in the guts, dans les entrailles. Voilà, à part ça, où je pense que c'est un truc un peu anodin, je pense pas que ce soit un vrai sujet. C'est juste, voilà, j'ai effleuré cette idée-là, ce lien entre le physique et la musique. C'est comme ça que je travaille, en fait, beaucoup plus qu'avec la tête.
C'est pour ça que vous aviez choisi l'acteur qui a joué un chien.
L'acteur qui a joué
Alain Chabat. Vous en avez parlé avec lui?
Oui.
Didier.
Oui. Non, bah, si. Ouais. De toute façon, Alain Chabat, c'est Didier. C'est plus fort que lui, je pense qu'il. Il l'était même avant de faire le film. C'est Didier, voilà, tu vois. Mais Alain, c'est comme un chien. Il a un espèce de truc de clébard qui est hilarant. La sympathie, la bonhomie. Il est complètement Didier, Alain. Non, moi j'ai une grande affection pour les chiens, beaucoup plus que pour l'être humain, qui est quand même une pourriture.
Puisqu'on parle de pourriture et d'entrailles, ça nous conduit au cinéma de genre, parce que je crois que...
Et j'ai vu Christine, ouais.
Oui, voilà, et puis je crois que Massacre à la tronçonneuse, ça a été un choc important, y compris pour la bande-son.
Y compris pour la bande-son, dès le début de cette cassette VHS atroce. Dès les premières secondes du film, c'est des bruits de scie. C'est un espèce de bruit infernal. On entend un flash de photo et des bruits de... Comme des bruits de scie, un peu. Mais vraiment horribles. Des bruits extrêmement stridents. C'est le générique qui est complètement abominable. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'image encore. On ne sait même pas de quoi ça parle encore. C'est qu'une espèce de... On voit des images du soleil, je crois, des espèces de trucs en fusion. Rien que ça, c'était déjà un traumatisme, en fait. C'était déjà affreux. Alors, c'était juste ce son. Et je l'ai samplé, d'ailleurs, tellement le truc m'obsédait. Parce que, voilà, mais je pense... Ce genre de film, ça fait le même effet à tout le monde. Entre 15 et 20 ans, tous ces films-là sont hyper attractifs. Enfin, voilà, oui. Ça marche moins sur moi aujourd'hui. Voilà, je suis plus... Je suis plus directement attiré par les films dégueux et sales et flippants. Mais bon, voilà, quand on a 15 ans, c'est un... Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, c'est un espèce de... C'est très excitant, ces films-là.
On essaie de retrouver Christine. Christine.
Christine, j'ai pas un souvenir direct de la bande originale. C'est pas mon... C'est pas vraiment... c'est le seul Carpenter qu'on a.
Non, il y en a d'autres.
Quasiment tout est bon, hein, chez Carpenter. Même les trucs ratés, hein.
Et Dark Star, alors?
Dark Star, je l'ai vu, j'ai pas un souvenir, j'ai pas un souvenir immédiat, là. C'est pas un des premiers films?
Si, ouais, c'est tout début, si, ouais. C'est son premier. On a l'impression que ça annonce un petit peu la guerre des étoiles et Alien, mais de façon très parodique, très amateur, assez drôle.
Et c'était déjà lui qui faisait sa musique?
Ah oui, bien sûr, oui.
Bah, c'est intéressant d'écouter, ça, peut-être les prémices de ce qu'il a fait ensuite.
Musique, effets sonores et extraits de dialogue.
Ça, c'est pas une réédition. Ça a l'air d'être le...
Oui, c'est l'original.
Ouais. Ah, ça, j'adore les disques avec des extraits de dialogue. Lieutenant Doolittle a just exploded. The planet just exploded, sir. Lieutenant?
Attention, attention. Ship's computer to all personnel. The hyperdrive sequence is now terminated.
Ça, c'était pour John Carpenter.
Dark Star. C'est son premier, si c'est un film d'étudiant.
Oui.
Je l'ai pas revu depuis très longtemps. Et je pense que quand je l'ai vu, j'avais pas dû être satisfait parce que je cherchais un truc plus... Moi, j'ai découvert, pareil, comme à la même époque, en fait, j'ai découvert Carpenter via les succès. The Thing, Halloween et compagnie, quoi.
Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans le cinéma de Carpenter? C'est intéressant que vous arrêtiez sur lui parce que son cinéma et sa musique sont intimement liés et c'est exactement la même chose avec vous, Quentin Dupieux. On ne sait pas si c'est la musique qui génère le film ou inversement.
Il y a plusieurs éléments que j'adore chez lui, mais c'est globalement ces espèces de moments hyper forts, même dans les trucs les plus reconnus, type Halloween. Ces plans au steadicam avec le mec qui marche et les petites notes de piano, c'est complètement inédit. Il a inventé un code à lui tout seul. Enfin, il y a un truc qui est fou dans les atmosphères qu'il arrivait à créer avec deux sons. C'est pareil dans The Thing, la musique elle est complètement. Je crois que c'est pas lui dans The Thing.
Asso,
c'est pas un film extraordinaire, moi je trouve, mais j'ai jamais vraiment. Non.
Comme la bande son est plutôt.
La bande son est super, la bande son est géniale, ouais. Non, mais il y a un truc incroyable, je trouve, dans la simplicité, en fait. Voilà, c'est un cinéaste qui a son langage hyper basique et au fur et à mesure, il a fait des films de plus en plus aboutis. C'est quand même un mec assez génial.
Vous êtes arrêté tout à l'heure sur Futuriste de Pierre-Henri.
Bah, c'est juste, ouais, parce que j'adore toujours Pierre-Henri. Donc c'est de quand ça? 1980. Ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. Juste par curiosité, on va le mettre. Futuristi. Ça, c'est son setup avec des Revox et il faisait des loops.
Donc des magnétos à bande, il y en a une dizaine.
Voilà. Et il faisait des boucles en fait de bandes. Donc c'était les prémices du sampling complètement artisanal. Il faisait tourner en rond des trucs et il faisait varier la vitesse des magnétos, ce qui fait comme exactement ce qu'on fait nous aujourd'hui avec des sampleurs qui sont des trucs automatiques. Mais lui, il faisait des variations donc de son. En faisant accélérer ou ralentir les bandes. Voilà, ça donne des trucs, c'est complètement incroyable. Il faisait des trucs avec la bouche, des toutes petites portions de sons de bouche qui se répètent sur une bande. C'est incroyable ce setup, c'est fabuleux quoi. Il y a ce truc fascinant où il avait quand même un tube avec Messe pour le temps présent, mais le reste du disque, c'est des bruits de portes, c'est des portes qui grincent et tout, c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire ce mec. Parce que ce disque, il a été vendu, c'est comme Switch on Back, je crois que ça a été c'était quand même un gros carton, Messe pour le temps présent. Il était partout, ça a dû être son plus grand tirage en fait. Bon, il y a 3 minutes du morceau.
Qui sont un peu pop et voilà, servis de générique.
Et tout le reste, c'est des bruits de portes qui grincent. Moi, tout ça me parle beaucoup, beaucoup. Quoi. J'ai beaucoup écouté. Je trouve qu'il y a un traitement sonore qui est incroyable. Quoi. C'est hyper. Je trouve que ça fait rêver en fait. Ouais. Après, des fois, c'est cauchemardesque, mais. Je suis pas sûr qu'il trouverait une maison de disques aujourd'hui. C'est dommage.
Il y a une notion qui revient toujours chez vous, Quentin Dupieux.
Oui.
C'est la notion de rêverie, d'imaginaire. Et je sais que le cinéma de Buñuel, par exemple, ou ce qu'ont pu faire les surréalistes, très important pour vous. Je voudrais vous faire entendre une interview d'un réalisateur qui, pour le coup, n'est pas du tout surréaliste. C'est Jean-Pierre Melville. C'était l'invité du dimanche, le 30 mars 1969. Il répond à la question, pourquoi ce film, L'Armée des Ombres, et est-ce que c'est seulement un film?
Non, c'est une rêverie rétrospective et nostalgique. Courteline disait, mauvais souvenirs, soyez pourtant les bienvenus, vous êtes ma jeunesse lointaine. Et je m'aperçois en vieillissant que tout ce qui aurait dû être des mauvais souvenirs de 1940 à 1944, nous avons des mauvais souvenirs. Ça n'est plus maintenant qu'une sorte de période qu'on ne revit qu'en la rêvant avec nostalgie.
Il y a des mauvais souvenirs qui nourrissent votre musique ou votre cinéma, Quentin Dupieux ?
Je suis pas certain. En fait, moi, je pratique beaucoup le, en tout cas pour l'écriture, les rêves éveillés un peu. C'est-à-dire que moi, les bonnes idées viennent souvent de la rêverie, quoi, du néant, dans un presque demi-sommeil, très souvent. La musique, c'est que c'est vraiment différent. La musique, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est vachement plus instinctif, animal, et il y a un truc de c'est pour remuer un peu. C'est justement pour pas dormir. Voilà. Après, est-ce que les mauvais souvenirs, je sais que malgré moi, il y a du vécu dans mon travail, mais je suis très mauvais analyste de mon travail. Effectivement, parfois, je reconnais des trucs dans des films, je me dis, ah oui, c'est vrai que là, il m'arrive un truc chiant. Récemment, j'ai écrit un film sans savoir que c'était une référence à ce truc chiant, mais ça répond pas complètement à ce qu'on vient d'entendre. C'est plus, la vie fait que, en fait, on parle de ce qu'on connaît et on parle de ce qu'on vit. C'est même en faisant des trucs complètement aberrants et de l'ordre du surréalisme ou du rêve, c'est tout le temps connecté à ce qu'on connaît, en fait, à ce qu'on vit. Tu vois, je pourrais pas faire un film sur des coiffeuses, par exemple. Je connais pas l'univers des coiffeuses, donc instinctivement, je saurais pas quoi raconter sur l'univers des coiffeuses. Ou alors, ce serait complètement artificiel. Voilà.
Tous vos films se déroulent aux États-Unis. Ou en tout cas, c'est vraiment une forme de lumière californienne, souvent, qu'on voit dans votre cinéma. À quel moment vous apercevez que ça vous intéresse pas, ou peut-être pas pour l'instant, de filmer une France actuelle? On a l'impression que c'est vraiment des souvenirs d'une Californie, d'une lumière américaine, notamment celle des films des années 70 que vous essayez de retravailler. Et c'est pas du tout un cinéma américain, ce que vous faites, Quentin Dupieux.
Non. Bon, après, il n'y a pas de recherche d'être dans le passé, nécessairement. C'est plus d'être nulle part, en fait, d'être jamais. J'ai pas envie d'inscrire un film dans une réalité présente, puisqu'à mon avis, ça n'a aucun intérêt, puisque la réalité, elle est ce qu'elle est. Donc moi, mes films, c'est toujours un mélange en fait d'époque et d'impression. Ça se passe vraiment, on ne sait pas vraiment où on est, la preuve. Donc oui, les quatre derniers films ont été tournés en Californie, mais c'est pas inscrit réellement dans une époque. En fait, on ne sait pas exactement. Ça pourrait être effectivement un peu 70, mais en même temps, ils ont des téléphones portables. Enfin, moi, j'aime bien ne pas me soucier en fait de l'époque. En fait, ça m'intéresse pas. En fait, voilà, parler du quotidien ou de notre époque ne m'intéresse pas. Il doit y avoir quelques scènes qui font écho au réel et au présent, mais sinon, moi, ma volonté, c'est effectivement de partir dans des rêves et de mélanger un peu des impressions qui soient. Voilà, si on a l'impression que je fais des films rétro, c'est complètement raté parce que c'est pas le but. Mais effectivement, voilà, il y a des impressions du passé. Rubber, c'était vachement inspiré par Duel, ce type de film, hein, tout sec, voilà, ce type de plan dans le désert, etc. Voilà, mais c'est des impressions très vagues. Il y a pas d'ambition précise en fait dans mon travail à ce niveau-là.
Je crois que c'est dans Réalité, Quentin Dupieux, vous utilisiez une musique de Philippe Glass.
Oui.
Et du coup, ça m'a donné l'envie de vous faire écouter. Vous connaissez la période rock de Philippe Glass ?
Alors, pas du tout.
Celui qui serait bien, c'est le premier, peut-être, Romantic Me. We'll be right back.
ça a surtout, je sais pas si c'est votre système ou quoi, mais ça a quand même un son incroyable. Le son est génial. Après, bon, c'est quand même un univers. On a l'impression d'être. Ça me fait penser à quasiment à Aha, quoi. S'il n'y avait pas l'esthétique sonore un peu solide, c'est quasiment de la soupe comme Aha, quoi. Romantic Me, quand même. Hein. Bon, il a aidé des mecs à faire un disque, un peu. C'est ça le. Non, mais c'est vrai, il n'est pas en photo. C'est pas complètement sa période rock. Non, mais c'est intéressant. Il y a un truc intéressant. Hein. Mais bon, il a tellement été loin de l'autre côté avec. Avec sa musique répétitive, c'est d'un seul coup, ça, après, on a l'impression qu'il y en a, ça, il y en a 50.
J'ai pas retrouvé d'ailleurs le
morceau en question.
On n'a pas retrouvé le vinyle du morceau de Philip Glass que vous utilisiez.
Ouais.
Pourquoi c'était ce Philip Glass-là? Parce qu'il y a un travail vraiment sur une pièce très précise qui va se répéter.
Ouais, en fait, le morceau dure une heure et quart. Mais en fait, moi, l'idée, j'avais l'intention d'utiliser le morceau dans sa globalité. Mais en fait, si on n'a pas le départ, le morceau, il est incompréhensible. En fait, si on le prend en plein milieu, par exemple, c'est too much et on peut pas. C'est trop perturbant. En fait, ce morceau, on a besoin de l'entendre démarrer pour rentrer dans la mécanique et le comprendre et l'apprécier. En fait, donc en fait, je me suis contenté des 5 premières minutes. En fait, je joue. Je rejoue et je crois que je l'utilise peut-être même 10 fois dans le film. Tout le temps, constamment, la même portion qui démarre toujours au début, en fait. Parce que sinon, c'était incompréhensible. Parce que c'est un morceau quand même, c'est une espèce de truc qui se développe pendant une heure et quart. Donc c'est un truc qui monte, mais c'est une variation hyper subtile. C'est comme un élastique qui se déforme. C'est très particulier quand même. Je savais que je voulais pas faire la musique. Je savais que j'en avais marre je venais de faire Long Cops, qui était un peu genre un fourre-tout de toute ma musique et de tout mon bordel, machin. Et je sais que ma musique, il y a un petit côté repoussoir pour pas mal de gens, en fait. Il y a un truc un peu trop rugueux et un peu trop débile aussi.
Bête et méchant. Ouais.
Voilà. Donc je me suis dit, tiens, je vais ouvrir un peu. Puis en fait, au lieu d'ouvrir, j'ai refermé encore plus, en fait. Parce qu'avec ce truc de Philip Glass qui est complètement aliénant et qui se répète à l'infini, en fait, c'est pas du tout plus accueillant, quoi. C'est même l'inverse. Mais bref, voilà. Donc j'ai pensé à Philip Glass. C'est un copain qui m'a mis sur la voie parce que je savais pas vraiment au début. Et puis on a réussi à se procurer une clé. Les éditeurs de Philip Glass nous ont donné une clé avec toute sa disco, donc tout, absolument tout. Et donc j'ai parcouru les trucs. Je savais, j'avais un son en tête. Il y avait une période Philip Glass que j'adore. C'est ces trucs justement avec le son, l'espèce de son d'orgue. Et puis quand j'ai trouvé celui-là, je sais pas pourquoi, c'était complètement le truc que je recherchais. J'étais en montage, j'ai instantanément essayé sur les images, et en fait c'est le seul morceau que j'ai essayé sur ce film. Il n'y a pas eu d'essai, j'ai même pas essayé. Moi, après, j'aurais pu, ces 5 premières minutes sont quand même, je vais pas dire simples, mais d'une certaine façon si. C'est une petite ritournelle qui tourne, et puis avec de l'écho, avec de la réverb, etc. J'aurais carrément pu le singer, enfin, ça aurait pas eu la même saveur, je pense. Voilà.
On retourne dans la sélection.
Dans le bac. Et donc, vous me donnez tous les disques à la fin, c'est ça? Alors, le Muppet Show, oh là là.
Oui, j'ai pris le Muppet Show.
Ah, sonnera, putain, ça c'est génial. Bah, oui. Ça, c'est la musique du film ou pas? Ouais, c'est la musique du film. Le film Space is the Place, de Sonnera.
Avec Moondog, c'est les deux musiciens qui reviennent quasiment dans tous les choix.
Ah bon?
De beaucoup de musiciens qui viennent ici, mais que ce soit des musiciens qui viennent du rap, du jazz. Ou à quel moment vous tombez sur la musique de Sun Ra et son univers? Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la mise en scène, ouais. du décor.
C'est un copain musicien, c'est le fils de Jackie Berroyer, donc Guillaume Berroyer, qui s'appelle Arc, son nom de scène c'est Arc, qui était complètement fanatique de Sun Ra, donc c'est lui qui m'a fait découvrir. Et mon premier choc sonnera, il y a une vidéo sur YouTube, donc je vais pas pouvoir épeler l'adresse internet, parce que je la connais pas. Mais il y a une vidéo où il fait une impro, en fait, c'est un espèce de concert, il est en transe, complètement ailleurs, en fait, et il fait une impro comme un fou sur un mini Moog. Donc c'est un instrument qu'on a tous eu entre les mains et qu'on connaît, donc il y a un truc un peu. Voilà, je me sentais proche de cet instrument, mais le mec fait. Il est complètement. Dans l'espace, pour le coup, il fait, voilà, on pourrait dire n'importe quoi, d'une certaine façon, mais en fait, son truc tient la route, parce que c'est complètement dingue ce qu'il fait, c'est fascinant à regarder, et puis les sons qu'il est en train de fabriquer, c'est complètement, c'est insensé, enfin, c'est un truc, c'est une furie musicale. Donc ça, quand j'ai vu ce truc-là, je suis tombé amoureux du mec.
Space is the place. Alors, j'ai pas vu le film.
Le film, il est incroyable. C'est un espèce de... Comment on pourrait dire, c'est comme le chien, un chien andalou. C'est fait avec des briques et de broc. Mais il y a des images incroyables. C'est un espèce de cadavre exquis. Complètement barge.
En fait, ce qui est très fort chez Sonora, c'est d'imaginer qu'en fait... On vient de l'espace et du coup, il dépasse complètement la question du racisme qui est très forte aux États-Unis. Enfin, elle l'est toujours, mais particulièrement au moment où lui commence, dans les années 50. Et il va avoir une sorte de surproduction. Je crois qu'il a sorti plus de 100 albums. Enfin, c'est très difficile. Et il en éditait en tournée, comme ils enregistraient tout le temps en permanence quand ils tournaient. Ils éditaient eux-mêmes leurs albums. Ouais. Ça fait qu'il y a des choses très rares. Ouais. Et il dépasse complètement l'idée du racisme en se disant, mais en fait, voilà, noir ou blanc, c'est exactement la même chose. En fait, de toute façon, on vient tous de l'espace.
Pourquoi pas. Ouais, moi j'aime bien la musique d'Asile, j'adore. Hein. Non mais vraiment. Non mais après j'aime aussi tout un tas de trucs hyper conventionnels, la funk, les trucs tout normaux, là, avec certains trucs de pop. Je suis pas... Mais là, vu que je venais ici, je me suis dit autant aller fouiller dans les trucs... Enfin, ces trucs-là qu'on n'entend jamais en fait. Toujours, ça reste toujours hyper intéressant. Je trouve que c'était pas vain, c'était pas une quête. Autant dans l'électronique expérimentale des années 2000, je dirais qu'il y a des trucs qu'on peut vraiment mettre à la poubelle. Mais ces mecs-là, je trouve que le chemin était vraiment valable. Ça valait le coup d'être enregistré.
Puisque vous parlez du début des années 2000, vous allez commencer à produire un petit peu avant ça, c'est vers la fin des...
97, ouais. Enfin voilà. Oui, mon premier disque c'est 97 je crois.
Quelle importance a eu Laurent Garnier, puisque je crois que c'est à lui que vous passez, le DJ donc, hein, Laurent Garnier, c'est à lui que vous passez vos premières démos. Vous allez à l'époque dans les premières rêves, des choses comme ça, pas du tout?
Non, c'est pas du tout ma culture en fait, c'est pour ça que c'était bien. Et c'est pour ça que ça a connecté avec un mec comme Laurent, c'est que lui en fait il a même pas eu à m'éduquer, parce qu'en fait j'ai été à trois soirées au Rex. Et c'était pas du tout, je connaissais vaguement cette musique, mais vraiment de très très loin. Et en fait de voir l'interaction, d'entendre cette musique dans un club avec le mix, etc. Il y a des morceaux qui ont commencé à me rentrer dans la tête. Et puis ça s'est fait tout. Enfin, je veux dire, voilà, j'ai pas eu un choc. Ça a pas changé ma vie. Genre, waouh, l'électronique. Moi, j'étais j'écoutais du rap ou des trucs comme ça. Donc, c'était quelque part, c'est la même musique en fait. C'est fait avec les mêmes machines, un peu. Voilà, j'ai juste découvert d'un seul coup, genre la dance music. Et je trouvais que Laurent Garnier avait une classe folle. Je trouve qu'il y avait, une sélection de musique, une sélection de morceaux qui était incroyable. Et puis voilà, et Laurent, il m'a fait ce cadeau incroyable, c'est-à-dire que je lui ai filé des maquettes, et puis il m'a dit, viens demain au Rex, et j'ai été au Rex, et il a joué, il a intégré dans son mix, il jouait encore en vinyle, donc il avait une platine CD pour lui également, quand il voulait essayer ses démos, Il a intégré mes démos dans un mix au Rex, en plein rush à 4h du mat. Et c'était incroyable. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, c'est super. Voilà, donc j'ai eu envie d'en faire plus. Et puis voilà, il les a sortis. Enfin, c'est, oui, oui. Il a été ce déclic-là, ouais.
On choisit un dernier disque.
Ok, Chantal Goya. Et... j'avais mis Carlos dans la liste, non? Non, vous l'avez pas eu?
Je suis pas sûr de l'avoir trouvé, Carlos.
Bah, il y a Carlos ici.
Ah oui, c'est certain.
Mais par contre, j'aimerais voir. Enfin, même si ça n'a aucun intérêt, hein, ça va être.
Oui, les choses plus récentes.
Bah oui, voir à quoi ça ressemble en fait. Ça ressemble à un magasin de disques.
Exactement, ouais.
Bon, allez, un petit Devo. Hein. Devo.
Alors, santé, hein, je précise, pour les éditeurs, c'est Devo. Ah, Devo.
C'est un disque Virgin, Freedom of Choice. Ah, attends, là, je les connais. Ah bah voilà, on met Whip It, le coup de fouet. Ça, c'est génial.
Je vous emmène dans les dernières travées parce que vous voulez voir les disques de nouveautés. C'est là où vous allez être rangé en fait.
C'est ça, c'est pour ça, j'ai envie de voir mon cimetière à moi.
Et on se quitte avec Whip It de Devo, dernier choix de Quentin Dupieux pour sa visite dans la discothèque de Radio France. Merci à Michael Simon qui nous a servi de guide. Toutes les informations et la programmation musicale sont disponibles à la page de l'émission Continent Musique sur franceculture.fr ainsi que la réécoute et le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, vous recevrez tout. Le prochain film de Quentin Dupieux, Au Poste, avec Benoît Pelvord, Grégoire Ludig, Aurel San et Anaïs Demoustier, entre autres, sortira le 4 juillet prochain. Monsieur Oiseau y jouera, lui, le 22 juin au Festival Solidays à Paris, le 7 juillet à Bobital, au Festival de l'Armor à Son. Hein, vous aurez deviné, c'est en Bretagne. Ce sera le 7 juillet. Pour le disque, je vous renvoie au dernier All Wet, édité chez Headbanger. Continent Musique vous est proposé par Mathieu Conquet avec la collaboration de Pascaline Bonnet, réalisation Olivier Guérin, la prise de son ce soir Laure Lucas et Jacques Azubert. Les programmes continuent, restez en bonne compagnie sur France Culture. Bonsoir.